FM. Merci de nous suivre sur Radio Orient. Il est 17h, le journal Nadia Pencher. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Les discussions autour de l'accord Iran-États-Unis ont repris à Doha sous la houlette des Qataris. Il s'agit de mettre en œuvre le protocole signé. Téhéran exclut à ce stade toute négociation directe avec Washington. Situation particulièrement préoccupante dans les territoires palestiniens. Dans un rapport publié hier, les Nations Unies mettent en garde contre une aggravation des tensions sur le terrain et dénoncent la poursuite de l'expansion des colonies israéliennes. Mondial 2026, la France affronte ce soir la Suède pour arracher son billet pour les huitièmes de finale. Hier, le Maroc a validé son passage au prochain tour. Les Lions de l'Atlas ont renversé les Pays-Bas au terme d'un match intense. Bonjour. Les discussions autour de l'accord conclu le 17 juin entre Washington et Téhéran se poursuivent au Qatar. Des émissaires américains, parmi lesquels Steve Witkoff et Jared Kushner, sont arrivés à Doha pour des consultations avec les médiateurs qataris. Téhéran a également confirmé l'envoi d'une délégation technique tout en excluant à ce stade toute négociation directe avec Washington. Les échanges portent notamment sur la mise en œuvre du protocole d'accord censé mettre un terme à plus de 4 mois de guerre. Parmi les principaux points de discussion figure la question du détroit d'Ormuz, les tensions persistantes au Liban, mais aussi le déblocage des avoirs iraniens gelés à l'étranger, une revendication jugée centrale par Téhéran. Le Qatar a toutefois précisé qu'aucune rencontre directe ni réunion de haut niveau entre responsables américains et iraniens n'était prévue dans l'immédiat. Malgré ces divergences de communication, les canaux de dialogue reste ouvert avec l'objectif d'éviter une reprise de l'escalade militaire dans la région. Gros plan justement sur ce protocole d'accord signé le 17 juin entre Washington et Téhéran, un texte qui ouvre une perspective de désescalade après plus de 4 mois de guerre et qui a été signé à distance par les présidents américains et iraniens. Mais quelles sont les conditions pour transformer cette trêve fragile en paix durable? Élément de réponse avec Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées et président du groupe d'amitié interparlementaire France-Pays du Golfe.
Aujourd'hui, ce qui a été accordé, c'est un peu comme dans un business. Vous avez, quand vous devez faire une levée de fonds, vous commencez par signer un term sheet qui donne quelques grands points de l'accord qui sont très importants. Et ensuite, derrière, vous négociez avec vos investisseurs pour faire l'accord, la façon de vivre au quotidien, le term sheet qu'on avait décidé. Donc effectivement, on a certains points d'accord, mais dans ces points d'accord, il manque quand même la raison pour laquelle il y avait ce conflit, qui était la question du nucléaire en Iran et de la menace existentielle que l'Iran faisait porter sur Israël. De l'autre côté, il y a aussi une problématique que nous portons depuis très longtemps, qui est la question aussi des Palestiniens et de la possibilité d'avoir un État palestinien, puisque beaucoup considèrent aussi qu'on n'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas la solution à deux États, même si elle apparaît très complexe aujourd'hui à mener. Ceci étant, donc c'est pour ça que entre cet accord aujourd'hui qui est ce signature de term sheet et le fait de régler les problèmes de fond, on voit bien que le chemin va être encore très très long et il a fallu des décennies pour qu'on constate qu'on n'y est toujours pas parvenu, mais on voit bien que le conflit n'est pas la bonne solution. Donc effectivement, ce qu'il y a de bien avec cette démarche, c'est qu'au moins on arrête de faire parler les armes.
Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France et président du groupe d'amitié interparlementaire France-Pays du Golfe. Il sera l'invité de Pluriel ce soir à 19h, une émission présentée par François-Xavier de Calonne. À Téhéran, les préparatifs s'accélèrent pour les funérailles nationales de l'ayatollah Ali Khamenei, tué au début de la guerre avec Israël et les États-Unis. Les cérémonies débuteront samedi pour 6 jours d'hommage sous haute sécurité avec des millions de personnes attendues dans la capitale. Des délégations d'une trentaine de pays doivent également participer aux obsèques. Dans les territoires palestiniens, la situation reste extrêmement tendue malgré la trêve en vigueur à Gaza. Selon l'agence palestinienne Wafa, l'armée israélienne a mené ce mardi de nouvelles opérations militaires dans plusieurs secteurs de l'enclave, notamment à Khan Younes, Rafah et Gazaville, avec des bombardements de zones résidentielles et de bâtiments civils. Ces opérations ont entraîné le déplacement de nombreuses familles. La veille, 8 Palestiniens, dont 2 enfants, ont été tués selon des sources médicales palestiniennes. En Cisjordanie occupée également, les tensions ne faiblissent pas. Un adolescent palestinien de 15 ans a été tué lundi lors d'une opération de l'armée israélienne près de Ramallah. Un nouvel épisode de violence qui intervient alors que les Nations Unies alertent sur une dégradation continue de la situation. Dans un rapport publié lundi, Antonio Guterres dénonce notamment l'extension des colonies israéliennes et l'aggravation des conditions de vie des Palestiniens. Les explications avec vous, Clara Dubanché.
Au-delà du drame de lundi, c'est l'évolution générale de la Cisjordanie qui inquiète le plus en plus la communauté internationale. Dans son dernier rapport, le secrétaire général des Nations Unies décrit une dynamique qui, selon lui, fragilise davantage les perspectives de paix. Antonio Guterres pointe notamment l'extension des colonies israéliennes, la multiplication des avant-postes et l'augmentation des violences liées aux colons. L'ONU estime que ces développements renforcent l'occupation du territoire et compromettent un peu plus la perspective d'un État palestinien viable et souverain. Autre sujet de préoccupation, les déplacements de population. Les Nations Unies évoquent une situation sans précédent depuis près de 60 ans. Les communautés palestiniennes sont contraintes de quitter leurs terres sous l'effet combiné des opérations de sécurité, des démolitions et des restrictions d'accès. Et cette inquiétude est également partagée par plusieurs pays européens membres du Conseil de sécurité. La France, le Royaume-Uni, le Danemark, la Grèce et la Lettonie ont appelé Israël à mettre un terme à l'expansion des colonies et à lutter contre les violences commises par des colons. Autant de signaux qui témoignent d'une détérioration continue de la situation en Cisjordanie, alors que la guerre à Gaza continue de peser sur l'ensemble de la région.
Merci Clara pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité au Soudan, l'armée affirme avoir repris le contrôle de Koulbous, une ville stratégique du Darfour située à la frontière avec le Tchad. Il s'agirait de son gain territorial le plus important depuis la perte d'El Fasher l'an dernier. Ces informations n'ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante et les paramilitaires des forces de soutien rapide n'ont pas réagi. Au Pakistan, au moins 14 enfants ont perdu la vie après l'effondrement du toit d'un bâtiment à Lahore dans l'est du pays. 5 autres enfants ont été blessés selon les services de secours. Les circonstances du drame n'ont pas encore été précisées. En Grèce, un immeuble résidentiel s'est partiellement effondré mardi dans un quartier proche du centre d'Athènes. Les secours ont été déployés pour vérifier la présence d'éventuelles victimes sous les décombres. Selon les autorités, des travaux sur un chantier voisin pourraient être à l'origine de l'incident. 5 responsables du chantier ont été interpellés. Une semaine après le double séisme qui a frappé le Venezuela, la situation humanitaire reste critique malgré l'arrivée d'une aide internationale massive. Le bilan officiel dépasse les 1700 morts et quelque 50 000 personnes sont toujours portées disparues selon l'ONU. Les hôpitaux et les morgues sont saturés tandis que l'OMS redoute l'apparition d'épidémies dans les zones sinistrées. En France, à l'Assemblée nationale, vif échange entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et les députés écologistes sur les conséquences de la récente canicule. Le chef du gouvernement a dénoncé un bilan de 10 000 morts avancé par les écologistes, le qualifiant de faux et de scandaleux. Il a également rejeté les accusations d'inaction face au changement climatique tout en reconnaissant la nécessité d'accélérer les mesures d'adaptation. Le groupe écologiste entend par ailleurs déposer une motion de censure contre le gouvernement. Et puis selon Santé publique France, la canicule exceptionnelle de mai a entraîné au moins 300 décès de plus que la normale en 5 jours, soit une hausse de près de 14%. La majorité de ces décès concernent des personnes âgées de plus de 75 ans. Sachez par ailleurs que Météo France annonce un probable nouvel épisode caniculaire à partir de ce week-end avec des températures qui pourraient dépasser les 35 degrés dans plusieurs régions. L'étendue et l'intensité de cet épisode restent encore à préciser. Hier et pour le quatrième lundi consécutif depuis la mort de Liana, la mobilisation s'est poursuivie en France. Un mouvement à l'appel de la coalition féministe et enfantiste. Elle demande une loi intégrale contre les violences sexuelles. Radio Orient était présente hier soir au rassemblement de la place Vendôme devant le ministère de la Justice. Parmi les personnalités présentes, la comédienne Eva Darlan, très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. On l'écoute.
Vous savez, des lois cadres, on en demande depuis 10 ans. La première fois que personnellement j'ai fait partie d'un mouvement qui demandait une loi cadre contre les violences sexistes et sexuelles, c'était sous Hollande. Donc vous imaginez, c'était au moment de l'affaire Jacqueline Sauvage. Et puis après, voilà, tout s'est dilué. On se rend bien compte, les années passant, n'ayant jamais rien obtenu, que les gouvernements successifs n'en ont rien à battre. À tel point des femmes et des enfants et des maltraitances et des viols et des féminicides et des pédocriminels et voilà. Tout ça, ça ne les intéresse pas. Aucune avancée n'a été faite, aucun respect n'a été démontré et il se trouve que cet enfant, cette martyre abominable a percuté en même temps Patrick Bruel, et avec la force des parents et la force de Flavie Flamand et la force de tout d'un coup toute une population s'est soulevée. Ça, à ce point-là, ça n'était jamais arrivé. Et à ce point-là, je n'ai jamais vu autant d'hommes dans des manifestations.
La comédienne Eva Darlan au micro de François-Xavier de Calonne. Sport pour finir et Mondial 2026. Quelle nuit pour les supporters marocains au terme d'un duel haletant face aux Pays-Bas. Les Lions de l'Atlas ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale après une séance de tirs au but irrespirable. Une rencontre disputée avec intensité jusqu'au bout où les Marocains ont fait preuve de maîtrise et de caractère. Le Maroc poursuit donc son aventure dans cette Coupe du Monde et se prépare désormais à affronter le Canada en huitièmes de finale. Ce soir, l'équipe de France tentera à son tour de décrocher son billet pour les huitièmes de finale face à la Suède. Coup d'envoi à 23h. Après une phase de groupe convaincante sur le plan offensif, les Bleus abordent ce rendez-vous à élimination directe avec confiance, tout en sachant que chaque détail comptera désormais. Didier Deschamps assume l'ambition offensive de son équipe tout en reconnaissant la nécessité de gagner en solidité défensive. Le sélectionneur français reste convaincu que la capacité de ses joueurs à faire la différence devant le but constitue l'un de leurs principaux atouts. On l'écoute.
On prépare une deuxième compétition qui commence dans la compétition. De toute façon, pour gagner les matchs, il faut toujours mettre un but de plus, à moins d'aller au pénalty. Mais ce n'est pas renoncer à ce qu'on a été capable de faire. On a marqué 10 buts, on aurait pu en marquer plus. C'est vrai qu'on n'en a pris que 2, mais on a concédé un peu trop d'occasions ou de situations. Après, chaque scénario de match est différent. J'imagine que certains vous posez la question, est-ce qu'on peut y arriver comme ça? Mais on l'a fait il y a 4 ans, avec pas les mêmes joueurs, mais on avait un dispositif qui était similaire. Il y a d'autres équipes qui le font. Quand on a le ballon, il n'y a pas de problème. Quand on l'a pas, il faudra être efficace. Mais on a une capacité à créer du danger et à faire mal à l'adversaire. Et ça, c'est une force et je veux qu'on garde cette force-là.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mohamed El-Bezri pour la réalisation. Prochain rendez-vous de l'info, le journal en langue arabe à 17h30. Excellente suite de programme à notre écoute.